7h48, Léa Salamé, votre invitée ce matin, est le secrétaire d'État aux Affaires européennes.
Bonjour Clément Beaune.
Bonjour Léa Salamé.
Merci d'être avec nous ce matin. L'équipe de Yafoot ce soir, l'équipe de France joue ce soir, vous allez regarder ?
Absolument, France-Portugal.
Mais ma question ne porte pas du tout sur les Bleus, mais sur le match Allemagne-Hongrie qui se joue ce soir à Munich. L'UEFA, l'organisation dirigeante du football européen, a dit non. Elle a interdit à la ville de Munich qui souhaitait illuminer le stade de l'Allianz Arena aux couleurs de l'arc-en-ciel pour soutenir la communauté LGBT menacée. C'est en Hongrie. L'UEFA estime que le foot, c'est le foot et qu'elle ne fait pas de politique. Elle a raison ?
Non, je regrette sa décision. Je pense que l'UEFA s'est un peu pris les pieds dans le tapis parce que, en fait, sa décision de refus est aussi une décision politique. Si elle pensait que tout ça était neutre, ça ne susciterait pas l'émotion et la polémique qu'on voit depuis 24 heures. Je saluais d'ailleurs, y compris dans l'équipe de France, l'engagement de certains joueurs comme Antoine Griezmann. Je pense aussi qu'il faut être très clair. Défendre l'égalité, c'est pas attaquer telle ou telle loi du gouvernement hongrois. C'est pas une opinion politique. C'est, je crois, des valeurs fondamentales qui sont dans les chartes sportives, qui sont dans les traités européens. L'UEFA s'engage régulièrement, comme la FIFA, pour des causes de lutte contre le racisme, etc.
Oui, c'est
tant
vrai.
Mieux.
Mais elle dit que c'est pas son rôle. Elle dit que l'UEFA, par ses statuts, est une organisation politiquement et religieusement neutre. Illuminer le stade de Munich ce soir, quand la Hongrie joue, elle dit que ce serait mener une action politique. Peut-être qu'il y a des supporters pro-Orban, ce soir, qui viendront voir le match de leur pays à Munich, et qui n'ont pas forcément besoin d'un message politique ce soir-là. Est-ce que ça n'a pas de sens de dire
ça ? C'est leur droit d'abord d'être pro-Orban, et c'est pas l'UEFA qui en a demandé de mener une action. C'est la ville de Munich et les autorités du stade qui ont dit « on veut illuminer le stade ». Et l'UEFA a dit non. Il y a aussi sans doute des supporters racistes dans le stade. Est-ce que c'est pour autant que l'UEFA va suspendre ses campagnes de lutte contre le racisme ? Bon, je trouve ça dommage. Ça n'était pas extrêmement compliqué. C'était pas extrêmement coûteux. On demandait pas à l'UEFA de rentrer dans un débat politique pour Monsieur Orban ou contre Monsieur Orban. Mais de quoi on parle? On parle d'une loi.
Alors justement, on parle d'une loi hongroise qui a été passée et qui prévoit, je le cite, que les contenus qui promeuvent la déviation de l'identité de genre, le changement de sexe et l'homosexualité ne doivent pas être accessibles aux moins de 18 ans.
Oui, absolument. J'ai avec moi le communiqué même du gouvernement hongrois, je peux vous le dire. C'est exactement, les parents sont en droit d'attendre que les contenus regardés par leurs enfants ne contiennent pas d'images pornographiques ou homosexuelles. Et donc, je pense qu'on n'est pas là dans l'opinion. Quand on considère que montrer une image d'un couple homosexuel, gay ou lesbien, c'est une forme de pornographie, il y a un problème. Et il y a un problème qui dépasse largement la question du match.
Le gouvernement hongrois, le gouvernement Orban répond « fake news, il ne s'agit que d'une loi pour lutter contre les pédophiles ».
Alors moi, j'ai eu des heures de débat hier au Conseil des ministres européens sur ce sujet. J'ai parlé avec mon homologue hongroise, parce que je veux toujours en discuter. Il est très clair, j'ai dû malheureusement le rappeler, je ne pensais pas avoir à faire ça un jour en Europe actuellement, j'ai dû rappeler qu'un contenu homosexuel, une image homosexuelle d'un couple dans une publicité, ça n'est pas un contenu pornographique. Parce que c'est ça que dit le gouvernement hongrois.
Alors, vous pouvez faire quoi ? Parce que protester c'est bien, faire c'est mieux. Il y a un article, l'article 7 de la Commission européenne qui peut permettre de suspendre les droits de vote d'un pays au Conseil européen, sauf qu'il faut l'unanimité. On voit difficilement la Bulgarie, par exemple, sanctionner la Hongrie amie. On peut faire quelque chose au niveau européen ?
Oui, on peut faire quelque chose d'abord, et je vous remercie. Je pense qu'en parler, c'est déjà beaucoup. Parce qu'il y a un an ou deux, c'était l'indifférence générale sur ces sujets. On parle de quelque chose qui a lieu, non pas dans les Émirats de ça, en Europe, aujourd'hui. Bon. On ne pensait pas qu'on aurait besoin de ces sanctions. C'est pour ça que nos procédures sont très compliquées. On pensait qu'un pays qui rejoignait l'Union européenne, il avait envie de défendre les droits et l'égalité, pas le contraire. Et donc on renforce ces mesures. C'est long, c'est compliqué, on y arrive. On a aujourd'hui, pas être trop technique, mais on a aujourd'hui un règlement européen qui permet d'avoir des sanctions financières quand on porte des atteintes à l'État de droit.
Il y aura des sanctions financières.
Je souhaite qu'on engage
Orban.
Cette procédure, oui. Et nous avons été hier près de 15 pays, 14 exactement, à demander à la Commission européenne d'engager ces procédures.
Clément Beaune, on entend votre courroux contre la Hongrie d'Orban. Est-il le même contre le Qatar, où se jouera la prochaine Coupe du Monde? Le Qatar, où plus de 6500 travailleurs migrants sont morts sur des chantiers. Je ne parle pas de comment est traitée l'homosexualité dans ces pays-là. Vous appelez aussi au boycott de la Coupe du Monde l'an prochain contre le Qatar, au nom des droits de l'homme et des droits humains?
Je ne mêle pas tout. D'abord, je n'ai pas appelé un boycott des matchs à Budapest pour la Hongrie. Bon. Moi, je l'assume, je suis plus choqué, je suis plus concerné par ce qui se passe au sein de l'Europe. On n'est pas, heureusement, dans la situation du Qatar au sein de l'Europe. Mais enfin, on est un pays, on a adhéré à un projet politique commun. Que le monde entier ne se comporte pas comme l'Europe et comme nos valeurs françaises et européennes, je le regrette. Et on peut réfléchir à des actions, parce qu'il y a effectivement des drames au Qatar. D'une certaine façon, cette Coupe du Monde les a mis en lumière. Il faut qu'on réfléchisse à un certain nombre de pressions politiques, diplomatiques supplémentaires. Mais là, on
parle
d'un
sujet. Pour vous, c'est pas la même chose, c'est ça ?
Non, parce qu'on a adhéré à un projet politique commun. L'Europe, c'est pas le marché et le tiroir caisse pour la Hongrie ou la Pologne. Ce sont des valeurs. Personne n'est forcé d'adhérer à l'Union européenne. Quand on y est, on respecte ces choses minimales qui ne sont pas de la politique,
alors,
qui sont des valeurs
sur l'Union européenne. D'autres questions, quelques questions sanitaires rapidement. D'abord, il y a ces derniers jours une accélération de la propagation du variant Delta dans plusieurs pays qui entourent la France, comme le Portugal ou le Royaume-Uni. La France ne bouge pas pour l'instant, pas de nouvelles mesures sanitaires aux frontières avec ces pays-là.
Alors, on actualise régulièrement, on le fera encore sans doute ce matin au Conseil de défense, la liste des pays dits rouges. C'est-à-dire les pays où la circulation du variant est très forte, et avec ces pays, je le rappelle, il faut des motifs extrêmement stricts, en gros être ressortissant français, pour rentrer sur le territoire avec des tests à l'entrée, à l'arrivée. Ça
va être le cas pour le Portugal ?
Non, ça ne va pas être le cas pour le Portugal, parce que ce n'est pas un pays qui est aujourd'hui, au niveau international, dans une situation sanitaire dégradée. Mais on ajoutera des pays, certainement dès aujourd'hui, à cette liste. Au sein de l'Union européenne, on n'a pas d'alarme aujourd'hui, et je précise néanmoins que même un pays européen, et tous sont encore en situation sanitaire bonne, doit, pour ses ressortissants, soumettre à un test ou à un vaccin avant d'entrer sur le territoire français.
Le pass sanitaire, il est prêt. Au 1er juillet, on va pouvoir voyager partout en Europe avec ce fameux QR code. Partout en Europe, Clément Beaune, mais pas aux États-Unis en revanche. Les Américains, ils ont le droit de venir chez nous, mais nous, on n'a pas le droit d'aller chez eux.
Alors, partout en Europe d'abord, vous avez quand même, insistant sur la bonne nouvelle, dès le 1er juillet, on peut circuler aujourd'hui, mais ça sera harmonisé, le même QR code partout, ça facilite les choses. On a dit qu'avec des pays sur des critères sanitaires où la situation était bonne, c'est le cas des États-Unis. On acceptait d'ouvrir nos frontières. C'est notre intérêt, touristique notamment, avec une situation
que
qui
les
est
Américains
sûre
viennent,
et qui est protégée.
Bien entendu.
Moi, je l'ai dit.
Et la réciprocité.
Oui, je l'ai dit plusieurs fois. Je souhaite la réciprocité. Je
et
pense
ils veulent
que c'est.
Pas.
Oui,
et on
a.
Et on fait quoi?
Eh ben, on va mettre la pression sur eux. On a discuté la semaine dernière. Il y a eu un sommet Union européenne-États-Unis. C'était à l'heure du jour. Le président de la République l'a dit à Joe Biden lorsqu'ils ont eu l'entretien. Et j'espère, je crois que d'ici le début du mois de juillet, les Américains feront évoluer leurs règles. On a besoin de cette réciprocité. C'est effectivement plus logique et plus sain.
Clément Beaune, est-ce qu'il y a un problème avec la livraison de Pfizer au mois de juillet ?
Non, alors il y a des livraisons qui seront plus faibles en juillet qu'en juin, parce qu'en mois de juin, on a un mois exceptionnel. On avait demandé au laboratoire aussi d'accélérer leur cadence pour préparer l'été. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et puis l'Union européenne, puisqu'on a beaucoup critiqué ce cadre européen de vaccins, on s'équipe pour la suite. Et hier encore, on a signé un nouveau contrat avec Moderna, un des laboratoires qui nous livre, pour avoir 150 millions de doses supplémentaires de l'Union européenne. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de pénurie, mais on va accélérer aussi à la rentrée, parce qu'il faut se préparer à toutes les hypothèses. Il faudra peut-être des rappels vaccinaux, se protéger contre les variants. Donc on fait tout ça au niveau européen.
Quelques questions sur les régionales après la cuisante défaite de La République En Marche dimanche dernier. Gérard Larcher, le président du Sénat, a déclaré qu'ils ont voulu nationaliser le scrutin, ils doivent en tirer les conséquences. Vous en pensez quoi ? Emmanuel Macron doit-il tenir compte de cette défaite ?
Bon, il faut être humble et modeste, c'était un très mauvais résultat, y compris pour la majorité présidentielle. Enfin, ne triomphons pas quand on a 70% des Français qui votent. Je trouve que les Républicains oublient un peu vite les leçons du scrutin pour eux-mêmes. Donc, et nous, on n'a pas cherché à nationaliser le scrutin. Il y a eu un enjeu au contraire. On a dit qu'on ne tirait pas de leçon nationale, c'est un enjeu régional. Et c'est peut-être ça qui a créé, en partie, cette abstention, parce que les enjeux étaient difficiles à percevoir pour beaucoup de Français.
Pour lutter contre l'abstention, certains veulent le vote électronique. Est-ce que vous y êtes favorable ?
Moi, je suis favorable, oui, à ce qu'on regarde cette piste.
Quand vous on n'êtes a pas 60... tous d'accord, hein, Gérald
oui,
Darmanin
est contre.
Oui,
je sais, mais ouvrons ce débat. Quand on a 70% d'abstention, on ne peut pas se payer le luxe de fermer des pistes. Et il y a des grandes démocraties où ça fonctionne. J'entends un certain nombre de réticences sur les fraudes. Ouais. Enfin, je pense que si on ne fait pas cela d'ici la présidentielle, si on ne regarde pas cette option, on se tromperait. Ça fait partie de notre boîte à outils, mais avant tout, pour convaincre, je crois qu'il faut montrer à quel point les enjeux sont importants. Il n'y a aucune fatalité à l'abstention. Aux européennes, on nous disait que ça ennuyait tout le monde, pour rester poli. On a réussi à inverser la tendance,
oui,
à faire remonter la participation.
50, il y a eu 50%
d'accord,
d'abstention,
mais
hein, c'est pas non plus Byzance. Hein.
Mais on peut inverser la tendance.
Rachida Dati a dit à ce micro, je crois que vous l'avez entendu, ça vous a fait réagir, c'est quoi La République En Marche ? Un parti de traîtres, des traîtres de gauche et des traîtres de droite. Vous en pensez quoi ?
Non, mais Rachida Dati est très en forme et elle a un talent d'animation sur les plateaux. Maintenant, on n'a pas de leçons à recevoir franchement, de Rachida Dati ou des Républicains de la droite française en matière de trahison, interne, externe, je crois qu'ils savent faire. Donc soyons sérieux, concentrons-nous et ne soyons pas dans une sorte d'invective dont les Républicains, franchement, n'ont pas à nous donner les leçons de l'humilité et d'unité.
Merci Clément Beaune d'avoir été notre invité. Belle journée.
Merci à vous. France Inter.